Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission sur les Pères de l'Église. Nous retrouvons cette semaine Jean Chrysostome dans son commentaire sur la Genèse. Et nous sommes à la quatrième homélie de ce recueil. Il commente les versets suivants. « Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela se fit ainsi. » Reprenons donc le récit de la création, à l'endroit où nous l'avons laissé hier. Et sous la conduite de Moïse, notre saint prophète, asseyons-nous à la table d'une bonne et solide doctrine. Voyons donc ce qu'il veut aujourd'hui nous apprendre, et prêtons à ses paroles une oreille attentive. Car il ne parle point de lui-même, et il n'est que l'organe de l'Esprit-Saint, qui par sa bouche instruit tous les hommes. Après nous avoir donc raconté la création de la lumière, il a terminé l'œuvre du premier jour en disant que du soir et du matin se fit le premier jour. Puis il a ajouté, et Dieu dit, que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il divise les eaux d'avec les eaux. Considérez ici, mes frères, la suite et l'enchaînement de cette doctrine. Moïse nous a d'abord révélé la création du ciel et de la terre. Il nous a appris ensuite que celle-ci était invisible et informe, et il nous en donne la raison. C'est qu'elle était couverte par les ténèbres et les eaux, car il n'y avait encore que les eaux et les ténèbres. Alors la lumière se produisit au commandement du Seigneur, qui la sépara des ténèbres, et qui appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et maintenant, Moïse nous enseigne que de même que le Seigneur, après avoir créé la lumière, l'avait séparée des ténèbres et les avait distinguées par un nom spécial, il ordonne ici que les eaux soient divisées. Mais voyez combien est grande la puissance divine et combien elle surpasse toute intelligence humaine. Dieu commande et soudain un élément nouveau se produit et un autre se retire. Qu'est-ce donc que cette parole « que le firmament soit fait » C'est à peu près comme si nous disions dans notre langage qu'un mur soit établi entre deux éléments pour leur servir de séparation. Et afin de nous faire mieux comprendre et la prompte obéissance des éléments et le souverain pouvoir du Seigneur, Moïse ajoute immédiatement « et il en fut ainsi ». Dieu parla et l'œuvre fut achevée. Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Après donc que Dieu eut créé le firmament, il ordonna qu'une moitié des eaux resterait sous le firmament et que l'autre moitié demeurerait suspendue au-dessus. Et Dieu appela le firmament ciel, c'est-à-dire cette voûte éthérée que nous voyons. Comment donc quelques-uns, direz-vous, peuvent-ils soutenir que plusieurs cieux ont été créés ? Certes, une telle doctrine ne repose point sur l'Écriture. Elle n'existe que dans leur imagination. Car Moïse ne nous apprend que ce que nous venons de dire. Il nous dit d'abord qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et que la terre était invisible parce qu'elle était cachée sous les ténèbres et les eaux. Il nous a ensuite raconté la création de la lumière. Et puis la suite du récit l'a mené à nous parler du firmament. Et Dieu dit que le firmament soit. Mais à quel usage était-il destiné ? C'est ce que Moïse a soin de nous apprendre en disant qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Enfin, il nous fait connaître que ce même firmament qui séparait les eaux s'appelait ciel. Qui pourrait donc, après une explication si claire et si lucide, supporter ces esprits qui parlent d'eux-mêmes et qui, contre l'autorité de l'Écriture, soutiennent la pluralité des cieux ? Mais ils objectent que le saint prophète David a dit dans les psaumes « Louez le Seigneur, cieux des cieux ». Eh bien, ne vous troublez point, mes frères, et ne croyez point que l'Écriture se contredise jamais. Tout au contraire, reconnaissez sa véracité, attachez-vous à sa doctrine et fermez l'oreille au cri de l'erreur. Écoutez donc avec beaucoup d'attention ce que je vais vous dire, et ne vous laissez point facilement ébranler par ceux qui vous débitent toutes leurs rêveries. Tous les livres sacrés de l'Ancien Testament ont été originairement composés en hébreu, personne ne le contredit. Or, quelques années avant la naissance de Jésus-Christ, le roi Ptolémée, curieux de réunir une riche bibliothèque, voulut joindre nos livres saints à tous ceux de divers genres qu'il avait déjà rassemblés. C'est pourquoi il fit venir de Jérusalem quelques juifs pour les traduire en grec, ce qu'ils exécutèrent heureusement. Et voilà comment il arriva, par une disposition particulière de la Providence, que non seulement ceux qui entendaient l'hébreu, mais généralement tous les peuples purent profiter de nos saints livres. N'est-il pas aussi bien surprenant que ce dessein ait été conçu par un prince idolâtre et qui, loin de suivre la religion des Juifs, observait un culte tout opposé? Mais c'est ainsi que le Seigneur dispose toutes choses, afin que les ennemis de la vérité soient les premiers à la faire éclater. Au reste, cette digression historique était nécessaire pour vous rappeler que l'Ancien Testament n'a pas été écrit en grec, mais en hébreu. Or, les hébraïsants les plus distingués nous apprennent que dans cette langue, on emploie toujours le mot « ciel » au pluriel. Les docteurs syriens en conviennent eux-mêmes, et ainsi un hébraïsant ne dira jamais « le ciel », mais « les cieux ». Le psalmiste a donc eu raison de dire « les cieux des cieux ». Et ce n'est point qu'il y ait plusieurs cieux, car Moïse ne vous le dit pas, mais c'est le génie de la langue hébraïque qui emploie le pluriel pour le singulier. S'il y avait en effet plusieurs cieux, l'Esprit-Saint nous en aurait appris par Moïse l'existence et la formation. Retenez avec soin cette observation, afin que vous puissiez fermer la bouche à tous ceux qui avancent des dogmes contraires à l'enseignement de l'Église et que vous demeuriez convaincus de la véracité de nos saintes Écritures. Car vous ne vous réunissez ici fréquemment et nous ne vous faisons d'amples instructions que pour vous mettre en état de rendre raison de votre foi. Mais revenons, s'il vous plaît, à notre sujet. Et Dieu appela le firmament ciel, et il vit que cela était bon. Observez comme Moïse se proportionna à notre faiblesse. Il a dit de la lumière, et Dieu vit qu'elle était bonne, et maintenant il dit du firmament ou du ciel, et Dieu vit qu'il était bon. Cette parole nous donne une idée juste de sa beauté, et n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que depuis tant de siècles, il la conserve dans tout son éclat ? Il semble même qu'elle augmente avec le cours des années. Au reste, quelle n'est point la splendeur du firmament puisque Dieu lui-même l'a loué? Quand on nous présente quelque chef-d'œuvre de l'art, une statue par exemple, nous en admirons les traits, la pose, la délicatesse, les proportions, l'élégance et les autres qualités. Mais qui pourrait célébrer dignement les œuvres de Dieu, surtout lorsqu'il les a lui-même louées? Moïse ne s'exprime donc ainsi que par condescendance pour notre faiblesse, et il répète le même éloge après chaque création partielle, afin de réfuter par avance ceux qui, dans le cours des siècles, devaient critiquer l'œuvre divine, et aiguisant leur langue, demander pourquoi le Seigneur a fait telle et telle créature. Il les prévient et les confond par cette seule parole, et Dieu vit que cela était bon. Mais lorsqu'on vous dit que Dieu vit et loua son ouvrage, il faut entendre qu'il l'a loué d'une manière digne de lui. Car celui qui a créé le ciel en connaissait la beauté avant que de le produire. Et néanmoins, parce que nous autres hommes, nous sommes si peu intelligents que nous ne saurions comprendre autrement les choses, il a proportionné les paroles de Moïse à notre faiblesse et lui a inspiré pour notre instruction ce langage imparfait et grossier. Quand vous élevez donc vos regards vers les cieux et que vous en contemplez la magnificence, l'étendue et la beauté, remontez jusqu'au Créateur. Selon ce que dit le sage, que la grandeur et la beauté de la créature peuvent faire connaître et rendre en quelque sorte visible le Créateur. Comprenez aussi par la création de tant d'éléments divers quelle est la puissance de notre Maître. Et en effet, si l'homme voulait appliquer son intelligence à l'étude de chacune des merveilles de la nature, ou même s'il se bornait à l'examen de sa propre formation, il ne lui en faudrait pas davantage pour proclamer l'ineffable et immense puissance du Seigneur. Mais dès lors que les créatures visibles célèbrent aussi la grandeur et la puissance du Créateur, que sera-ce quand vous vous élèverez jusqu'aux créatures invisibles? Oui, atteignez par la pensée les phalanges célestes, les anges et les archanges, les vertus et les trônes, les dominations et les principautés, les puissances, les chérubins et les séraphins, et dites-moi quel génie et quelle langue pourraient expliquer l'ineffable magnificence du Seigneur. Cinquième homélie. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'aride paraisse. Aujourd'hui encore, les paroles de Moïse me fourniront le festin spirituel que je veux servir à votre charité, en vous expliquant avec soin l'œuvre du Seigneur au troisième jour de la création. Ceux qui travaillent aux mines ne cessent point, quand ils ont rencontré un riche filon, de creuser profondément. Ils écartent tous les obstacles et ne craignent point de descendre jusque dans les entrailles de la terre pour en retirer la plus grande quantité possible de ce précieux métal. Et nous qui ne recherchons point des veines d'or, mais un trésor ineffable, ne devons-nous pas chaque jour poursuivre nos travaux afin de rentrer dans nos maisons les mains pleines de ces richesses spirituelles ? Trop souvent, les biens de la terre deviennent pour leurs possesseurs la cause de grands malheurs, et après quelques instants d'une rapide jouissance, ils leur sont enlevés par la fraude des flatteurs. La violence des voleurs ou la ruse des esclaves qui s'enfuient chargés d'un précieux butin. Mais aucune perte de ce genre ne menace nos richesses spirituelles. Ce trésor ne peut nous être dérobé, et dès que nous le cachons dans notre cœur, il y est à l'abri de toute rapine. Il suffit que notre lâcheté n'y donne point l'entrée à l'ennemi, qui ne désire que de nous dépouiller. Et en effet, quand cet ennemi, ce démon, veux-je dire, voit que nous sommes riches en biens de la grâce, il frémit de rage, grince des dents, et épie attentivement l'occasion favorable de nous enlever nos richesses. Or le temps qui lui est le plus favorable est celui où il nous surprend, lâche et négligent. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller sans cesse pour déjouer toutes ces embûches. Car s'il attaque une ou deux fois ceux qu'il trouve actifs et vigilants, il les laisse bientôt en paix, honteux de voir ses efforts inutiles et assuré qu'il ne remportera point la victoire tant que nous nous tiendrons sur nos gardes. Mais puisque nous n'ignorons pas que la vie est une lutte continuelle, soyons toujours armés comme en présence d'un ennemi qui nous épie sans cesse et craignons que la moindre négligence de notre part ne lui facilite l'occasion de nous surprendre. Mais reprenons ce long exorde et écoutons, s'il vous plaît, ce qu'aujourd'hui l'Esprit-Saint veut nous enseigner par la bouche du saint prophète Moïse. Et Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'aride paraisse. Et il en fut ainsi. Considérez ici, mes frères, l'ordre et la suite des œuvres divines. Moïse nous dit dès le commencement que la terre était invisible et informe, parce qu'elle était couverte par les ténèbres et par les eaux. C'est pourquoi au second jour, Dieu sépara les eaux par le firmament qu'il appela ciel, et au troisième jour, il ordonna que les eaux qui étaient sous le ciel, c'est-à-dire le firmament, se rassemblent en un seul lieu, afin que leur retraite laisse la terre à découvert. Et cela se fit ainsi. C'est parce que les eaux couvraient toute la surface de la terre que le Seigneur leur commanda de se réunir en un seul lieu, et alors l'aride put se montrer. Voyez comme l'historien sacré nous découvre graduellement la beauté de l'univers. « Et il en fut ainsi, dit-il. Comment ? Selon les ordres du Seigneur. Il dit, et la nature obéit soudain. Car il appartient à Dieu de régler toutes les créatures selon sa volonté. » Les eaux qui étaient sous le ciel, dit l'Écriture, se rassemblèrent en un seul lieu, et l'aride parut, et Dieu appela l'aride terre. Voilà donc, mes chers frères, comment Dieu déchira le voile qui rendait la terre invisible et informe, car elle était couverte par les eaux comme par d'épaisses ténèbres. Mais dès qu'elle put montrer sa face, il lui donna un nom. Et Dieu appela la réunion des eaux mer. Les eaux ont donc leur nom, et le Seigneur, semblable au potier qui façonne un vase et ne lui donne un nom qu'après l'avoir achevé, ne voulut imposer un nom aux éléments qu'après les avoir distribués dans les lieux qu'il leur assignait. La terre reçut donc son nom dès qu'elle parut sous la forme qu'elle devait revêtir, et de même les eaux reçurent alors une dénomination spéciale. Car Dieu, dit l'Écriture, appela la réunion des eaux mer, et il vit que cela était bon. C'est parce que l'homme est trop faible pour louer dignement les œuvres divines que l'Écriture nous prévient et nous apprend que le Seigneur les a louées lui-même. Ainsi, quand vous apprenez que le Créateur a trouvé bonnes ses créatures, vous devez les admirer souverainement, mais vous ne pouvez rien ajouter aux louanges qu'elles ont déjà reçues, car telle est la puissance de Dieu et telle est la perfection de ses ouvrages que nous ne saurions les louer autant qu'ils le méritent. Mais est-il étonnant que l'homme faible et ignorant ne puisse jamais ni louer dignement ni célébrer les œuvres du Seigneur ? La suite du récit nous montre également l'ineffable sagesse du divin ouvrier. Il vient de mettre à découvert la surface de la terre et il se hâte de l'embellir. Aussi voyons-nous qu'à sa parole, les plantes et les fleurs l'émaillent de leur riche variété. Et Dieu dit, que la terre produise les plantes verdoyantes avec leurs semences et des arbres avec des fruits, qui, chacun selon son espèce, renferment en eux-mêmes leurs semences pour se reproduire sur la terre. Et il en fut ainsi. Que signifient ces derniers mots « et il en fut ainsi » ? Ils nous apprennent qu'à l'ordre du Seigneur, la terre se hâta d'épancher ses productions et de faire éclore le germe de toutes les plantes. La terre produisit donc, dit Moïse, des plantes qui portaient leurs graines suivant leur espèce et des arbres fruitiers qui renfermaient leurs semences en eux-mêmes, chacun suivant son espèce. Et qui n'admirerait ici, mes chers frères, comment la parole divine a tout opéré sur la terre ? En effet, il n'y avait point encore d'homme qui la cultivait et qui, pour la couvrir de sillons, pliait le bœuf au joug de la charrue. Mais elle entendit le commandement du Seigneur et soudain produisit les plantes et les arbres. D'où nous apprenons qu'aujourd'hui encore, ce sont bien moins les soins, les travaux et les fatigues du laboureur qui fertilisent la terre que les ordres que le Seigneur lui intima dès le commencement. Que la terre produise les plantes verdoyantes. Suivons donc les traces de la Sainte Écriture et condamnons hautement ceux qui s'élèvent contre ces divins enseignements. Quoique les hommes cultivent la terre et à l'aide d'animaux domestiques s'appliquent à l'agriculture, quoique les saisons leur soient favorables et que tout concourt à satisfaire leurs désirs, si Dieu ne répand sa bénédiction, ils s'épuiseront en d'inutiles travaux. Oui, ni les sueurs ni les fatigues du laboureur ne deviennent fécondes si le Seigneur du haut du ciel n'étend sa main et ne leur donne un heureux accroissement. Mais qui ne serait ravi d'étonnement et d'admiration en voyant comment cette parole « que la terre produise des plantes verdoyantes » pénétra jusque dans les profondeurs de la terre et l'émailla comme d'un riche tapis par la variété des fleurs qui en couvrit la surface. Ainsi la terre, qui naguère était brute et inculte, et revêtit soudain d'une brillante parure et rivalisa de beauté avec le firmament, et en effet, de même que celui-ci devait bientôt resplendir du feu des astres, la terre s'embellissait par la variété des fleurs, en sorte que le Créateur lui-même loua son propre ouvrage, et Dieu, dit l'Écriture, vit que cela était bon. Moïse a soin, comme vous pouvez le remarquer, de nous rappeler après chacune des œuvres de la création que Dieu loue son propre ouvrage, afin d'apprendre aux hommes à remonter de la créature au Créateur. Car si les créatures sont au-dessus de toutes nos louanges, que dire de l'ouvrier divin qui les a produites ? Et Dieu vit que cela était bon, et du soir au matin, il se fit le troisième jour. C'est pour mieux nous inculquer ces choses que l'écrivain sacré nous les répète ici. Il lui suffisait en effet d'énoncer que le troisième jour fut fait. Voilà, dans cette émission, nous avons vu que Saint Jean Chrysostome interprète le refrain de la Genèse « Et Dieu vit que cela était bon » comme une louange de Dieu qui loue son propre ouvrage. Mais comme il le dit aussi dans cette dernière homélie que nous venons de voir ensemble, c'est parce que l'homme est trop faible pour louer dignement les œuvres divines que l'Écriture nous prévient et nous apprend que le Seigneur les a louées lui-même. Eh bien, c'est par la voix de l'homme, créature créée par Dieu, que la création inanimée trouve son sens. L'homme est en quelque sorte le prêtre de cette création, qu'il a été posé ainsi par le Seigneur, pour faire remonter à Dieu la louange de ces créatures, celles inanimées comme la terre et les eaux, dans le deuxième jour. Donc, ça nous dit, à travers l'œuvre de la Genèse déjà, pressentir ce que nous verrons dans les prochaines émissions, la grandeur de l'homme créé à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Voilà, bonne journée, bonne semaine à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne. Je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine. Au revoir.